Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à tous. Soirée électorale cruciale aux États-Unis dans la course à l'investiture démocrate. Le Super Tuesday qui voit 14 États voter devrait permettre d'y voir plus clair et de départager les deux favoris, Bernie Sanders et Joe Biden, pour affronter Donald Trump en novembre. Nous serons en direct de San Francisco avec Grégory Phillips. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au chevet de l'État grec sur le poste frontière de Castanis, elle a affirmé son soutien alors que 20 000 migrants sont actuellement massés le long de la frontière gréco-turque. Nous entendrons les précisions de Louise Baudet. Le Premier ministre Édouard Philippe répond de l'utilisation du 49-3 face à l'Assemblée. Deux motions de censure ont été déposées par l'opposition et vont être votées dans l'heure qui vient et devraient sans grande surprise être rejetées. Les explications de Stéphane Robert. Et puis nouveau bilan du coronavirus en France. 4 morts et 212 cas confirmés dans 13 régions. Une épidémie qui touche de plein fouet l'économie du monde du spectacle. Notre invité pour en parler, Malika Seguino, directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Vous êtes bien sur France Culture, il est 22h. Aux États-Unis, c'est la croisée des chemins dans la course à l'investiture démocrate. C'est le Super Tuesday, 14 États, les îles Samoa américaines et les électeurs démocrates vivant à l'étranger votent pour savoir quel candidat démocrate défiera Donald Trump lors des présidentielles en novembre prochain. Grégory Phillips, vous êtes en direct de San Francisco, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Vous y suivez cette soirée électorale, une soirée qui devrait se résumer à un face-à-face entre le favori Bernie Sanders et son rival numéro 1, Joe Biden.
Oui, alors d'abord Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui pour l'instant fait la course en tête en nombre de délégués et aussi dans les tout derniers sondages locaux. Bernie, comme l'appellent ses militants, était en Californie dimanche avec des foules impressionnantes dans la Silicon Valley et puis aussi à Los Angeles. Et puis l'autre favori, c'est Joe Biden, l'ex-vice-président d'Obama, dont la campagne est relancée après sa victoire en Caroline du Sud et surtout après les soutiens qu'il vient de recevoir. Deux anciens candidats se sont rangés derrière lui, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, et puis surtout Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend en Indiana. On a l'impression que les uns après les autres, les modérés, les centristes du Parti démocrate se rangent derrière l'ancien vice-président pour en quelque sorte contrecarrer la dynamique Sanders. On était ce matin avec Joe Biden qui a fait une visite surprise à Oakland dans la banlieue de San Francisco et il a dit qu'il sentait très bien les choses maintenant. Et puis enfin il y a le troisième homme, le milliardaire Mike Bloomberg qui se lance dans la compétition aujourd'hui. Les presque 500 millions de dollars qu'il a déjà dépensé en publicité suffiront-ils à convaincre les électeurs démocrates? Ici en Californie, les bureaux de vote ferment à 20h. Premier résultat attendu dans la nuit pour vous, plus sûrement demain matin.
Grégory Phillips en direct de San Francisco et le prétendant démocrate à la Maison Blanche sera officiellement désigné lors d'une convention organisée du 13 au 16 juillet dans le Wisconsin. Le stock d'uranium enrichi de l'Iran est 5 fois supérieur à la limite autorisée par l'accord nucléaire de 2015. C'est ce que dit un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dénombre 1500 kilos d'uranium au lieu des 300 prévus par l'accord de Vienne. Cet accord dénoncé par les États-Unis en 2018, Téhéran s'en affranchit depuis près d'un an. Alors les experts estiment généralement que le seuil requis pour confectionner une bombe nucléaire est de l'ordre de 1050 kilos d'uranium faiblement enrichi, une quantité désormais dépassée par Téhéran. Mais les étapes et la technologie nécessaires pour rendre cet uranium compatible avec la fabrication d'une bombe sont cependant encore nombreuses. Alors qu'environ 20 000 migrants sont actuellement massés le long de la frontière gréco-turque, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis réclamait un soutien ferme de l'Union européenne. Eh bien, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui a apporté, du moins par les mots, sans pour autant attaquer frontalement la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Les précisions de Louise Baudet.
Une Europe sans costume-cravate venue se confronter aux réalités d'un terrain très sécurisé. Les trois principaux dirigeants de l'Union européenne sont là, aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
Thank you very much for your presence.
Des remerciements et une mise en garde à l'adresse du voisin turc.
Nous envoyons un signal très très clair. Les migrants ne peuvent être utilisés comme les instruments d'un jeu géopolitique. Ça n'est pas acceptable.
Solidarité ensuite des Européens et de la présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen.
Les inquiétudes grecques sont nos inquiétudes. Cette frontière n'est pas seulement grecque, elle est aussi européenne. Et je me tiens ici aujourd'hui, en tant qu'européenne, à vos côtés.
À la clé, une aide de 700 millions d'euros et des renforts de l'agence Frontex. Mais au-delà, les dirigeants européens sont venus délivrer un message d'unité.
Ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus. Nous resterons fermes et notre unité l'emportera.
L'unité européenne impossible à trouver depuis bientôt 5 ans sur ce dossier migratoire, rappelle le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli.
Celui qui arrive en Grèce arrive en Europe. Celui qui arrive en Italie, à Malte, en Espagne, arrive en Europe. Et c'est à l'Europe de partager le poids de l'immigration, de procéder à une répartition équitable qui garantisse le fait qu'en Europe, les libertés et les droits des personnes sont défendus. Nous avons besoin d'un tournant.
Un tournant bien au-delà des photos de famille et des réunions de crise. Demain, à Bruxelles, entre ministres de l'Intérieur des 27, avant leurs collègues des Affaires étrangères, vendredi en Croatie.
En France, le Premier ministre Édouard Philippe fait face en ce moment même à l'Assemblée à 2 motions de censure suite à l'utilisation du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. 2 motions de censure donc, l'une signée Les Républicains, une seconde signée de la gauche et qui sera également votée par le Rassemblement National. Avant le vote, les débats ont été vifs tout l'après-midi et sans surprise, chacun a joué sa partition, Stéphane Robert.
Les prises de parole se sont succédées ce soir et chacun a joué sa partition, chacun dans son couloir. Le Premier ministre a reproché à l'opposition d'avoir empêché le débat en jouant l'obstruction.
Je ne crois pas qu'un débat dans lequel une minorité bloque systématiquement les questions de fond et l'avancée, je ne crois pas que ce soit à l'honneur du débat parlementaire.
Il a été suivi en cela par le président du groupe Modem, Patrick Mignola.
Sur chaque amendement et sur chaque sous-amendement, nous recommencions. Nous avons fait 100 fois le tour de la loi, peut-être 3 fois le tour du monde.
Ce à quoi l'extrême gauche et en premier lieu les insoumis par la voix de leur chef de file Jean-Luc Mélenchon ont répondu, c'est pas nous, c'est vous.
L'obstruction parlementaire, c'est vous, les marcheurs, vos odieuses méthodes, vos provocations, vos grossièretés, votre acharnement contre nous, vos ragots. Quand vous avez décidé...
Le président du groupe Les Républicains, Damien Abad, a tenu à faire savoir que la droite, elle, n'était pas dans l'obstruction, mais qu'elle défendait à travers sa motion son propre projet de réforme avec un report de l'âge de départ en retraite.
Cette motion, c'est une motion de proposition qui présente clairement ce que serait une réforme de droite des retraites. Voilà pourquoi nous ne soutiendrons pas la motion présentée par la gauche radicale, car nous ne voulons pas de confusion avec ceux qui sont dans le blocage, l'obstruction et le déni de réalité.
Chacun sa partition, donc l'exercice était convenu. Le vote qui interviendra tout à l'heure avant minuit le sera aussi. Il montrera que l'exécutif dispose toujours d'une majorité à l'Assemblée. Les 2 motions déposées par l'opposition ne seront pas adoptées.
Les explications de Stéphane Robert. Et puis côté partenaires sociaux, après Force ouvrière, la CGT quitte la conférence de financement des retraites. Une mascarade selon le syndicat. La CGT ne veut pas, je cite, servir d'alibi dans une conférence où tout est joué d'avance. Nouveau bilan du coronavirus en France. 4 morts, 212 cas confirmés dans 13 régions. Demain matin, 2 conseils de défense spéciaux dédiés l'un à la Syrie et l'autre au coronavirus sont prévus à l'agenda présidentiel. Emmanuel Macron annonce que l'État français réquisitionne tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus. Le président qui a pris la parole en visite au centre qui coordonne la gestion de la crise. Écoutez.
Dans cette période que nous vivons et que nous allons vivre, parce que nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci. Mais nous sommes prêts et je sais que nous aurons cette force de relever ce défi.
Et au-delà de l'aspect sanitaire, l'épidémie a déjà des impacts économiques, notamment pour les entrepreneurs de spectacle. Notre invitée ce soir pour en parler, Malika Seguino, directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'annulation en France des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, et ce jusqu'à nouvel ordre. Depuis, les annulations se font au cas par cas. On apprend ce soir que les concerts du rappeur Ninho, du groupe Trio et du chanteur Matt Pokora, qui devaient tous bientôt jouer à Bercy, sont annulés ou bien reportés à cause de l'épidémie. Les décisions se font donc au compte-gouttes. Pour quelles raisons ?
Alors effectivement, depuis cette décision, nous également, nous sommes posé la même question, parce que est-ce qu'il fallait se contenter de cette décision du ministre ou est-ce qu'il y aurait un arrêté préfectoral pris donc dans chaque département ? Et comme vous l'avez constaté, ces arrêtés préfectoraux tombent au compte-gouttes. Donc ça génère effectivement beaucoup d'interrogations pour les professionnels. Est-ce qu'ils doivent dès maintenant annuler tout rassemblement de plus de 5000 personnes ou est-ce qu'ils doivent attendre un arrêté préfectoral ? Ce sont les questions que nous avons posées dès dimanche au ministre de la Culture, mais également encore récemment à nos interlocuteurs à Bercy, parce que vous comprendrez bien que pour nos professionnels, il est important d'avoir un cadre homogène et applicable sur tout le territoire national. C'est ce qui explique aujourd'hui cette zone un peu d'incertitude dans laquelle nous sommes depuis samedi, puisque nous ne savons pas si nous devons d'ores et déjà annuler toutes les manifestations, avec l'inquiétude des professionnels qui se disent « Mais si je n'ai pas de base juridique, cette annulation sera intégralement à ma charge, je ne vais pas pouvoir faire jouer mes assurances. » Donc il faut forcément se poser la question de la sécurité de la base juridique.
Vous êtes pessimiste avec cette épidémie qui pourrait impacter le secteur ?
Je suis très inquiète, en effet. Je suis très inquiète parce que ça s'ajoute aux secousses violentes qu'ont déjà subi ce secteur composé majoritairement de très petites entreprises, hein, pour 80% de ce secteur, ce sont des TPE, donc ce sont donc des entreprises fragiles économiquement. Nous avons eu les attentats du Bataclan, il a fallu se relever très vite, mais ça a été quand même très compliqué pour un certain nombre d'entre elles. Et il y a eu plus récemment et tout au long de l'année dernière les Gilets jaunes, et encore plus récemment la période des grèves de fin d'année. Donc nous sortions à peine de cette séquence avec déjà un niveau assez ralenti de vente parce que c'était complètement conforme au climat social. Et là, on se prend cette décision depuis samedi avec une incertitude autour, une espèce d'inquiétude générale. Donc effectivement, nos entrepreneurs sont inquiets, notre organisation est inquiète pour un certain nombre d'entreprises. On se dit, est-ce qu'elles auront encore la capacité de pouvoir poursuivre ce métier ensuite? Parce que l'annonce qui a été faite, le climat dans lequel on est en ce moment, a forcément un impact immédiat sur les ventes de billets de spectacle, vous vous en doutez.
De quelle manière exactement
week-end. Alors très tôt, en fait, ce week-end, on a pu constater une baisse par rapport à la même date il y a un an. Samedi, on nous indiquait que suite à l'annonce, c'était moins 25%. Depuis le début de la semaine, c'est moins 40%. Donc c'est effectivement immédiat et brutal. Est-ce que ce sera rattrapable? Je ne suis pas encore en capacité de vous le dire, parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de cette mesure, ni sa durée. Et c'est bien là le deuxième problème qui a été soulevé par nos professionnels. C'est non seulement comprendre le cadre dans lequel cette décision s'applique, mais surtout la durée de cette décision. Parce que pour certains arrêtés préfectoraux, ils l'ont limité 15 jours, au 14 mars. Et pour d'autres, pas de durée de fin. C'est extrêmement difficile pour des entreprises de travailler dans ces conditions.
Justement, les rassemblements de plus de 5000 personnes, on ne se rend pas spécialement compte, mais est-ce que ça concerne beaucoup de spectacles?
Il y a une centaine de salles en France qui sont en capacité d'accueillir ce type de rassemblement. Donc oui, ça concerne assez rapidement des milliers de spectacles. C'est d'autant plus sensible sur cette période de l'année qu'il y a plusieurs phases donc de l'activité d'un spectacle. La fin d'année est une période très importante, on a eu les grèves, et mars-avril est une période très importante dans le chiffre d'affaires du secteur. Pour un certain nombre de boîtes, c'est là où ils font un tiers de leur chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement important.
C'est peut-être difficile de donner une réponse globale à ça, mais comment concrètement on gère une annulation d'un rassemblement de plus de 5000 personnes?
Alors le producteur qui est confronté à ça, il va devoir voir si la date est reportable. Si la date est reportable, eh bien, il s'entend avec effectivement une salle de spectacle qui peut accueillir ce spectacle à un autre moment. Et dans ces cas-là, il invite les spectateurs sur cette autre date. Pour ceux qui ne pourront pas venir, eh bien, il les rembourse. Si la date n'est pas reportable, il doit rembourser les spectateurs. Et il y a également un certain nombre de contrats pour lesquels il reste engagé. Je parle là des contrats de travail. Vous êtes employeur, vous avez des contrats de travail. Eh bien, si la date est annulée, vous devez néanmoins payer des salaires de vos salariés. Et ça, c'est pas du tout remis en question par nos entreprises. C'est juste que ce sont des charges qui vont être très lourdes pour des entreprises déjà fragilisées.
Et justement, en termes d'assurance, est-ce que dans le monde du spectacle, est-ce qu'il y a des assurances pertinentes?
Eh bien, dans ce genre de choses, ils sont tous déjà en train d'expertiser leur contrat. La date à laquelle ils ont signé leur contrat, les clauses de leur contrat, et ils sont déjà en négociation pour ceux qui sont déjà concernés ou qui pensent qu'ils vont l'être, compte tenu de l'incertitude encore de la mesure, en train de négocier avec leurs assureurs. Il n'y a pas d'assurance spécifique en épidémie, ça n'existe pas encore. Par contre, tout le monde a effectivement son contrat d'assurance, qui est un contrat négocié individuellement, où on prend en considération des annulations pour ce type d'événement. Donc oui, c'est un sujet sensible avec un certain nombre de questions qui vont venir très très vite et donc sur lesquelles il faudra que nous ayons des réponses rapides.
Merci Malika Séguéno. Je rappelle que vous êtes directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Le Sénat vote à l'unanimité une proposition de loi portant à 15 jours contre 5 jusqu'à présent le congé pour le deuil d'un enfant de moins de 25 ans. La loi prévoit un dispositif amélioré d'accompagnement des parents endeuillés. Ce projet avait fait l'objet d'un couac de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il doit passer à nouveau devant les députés le 7 avril. Un mot de la météo avant de nous quitter. Presque tout le pays se réveillera sous la pluie demain matin. Du soleil uniquement pour la pointe bretonne, l'Alsace, la Lorraine, les Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen. Côté température, comptez 6 au Mans, 9 à Lille, Paris et Lyon, 12 à Marseille et 14 à Biarritz. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Nathalie Lopez à la technique, Élise Leu.